VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Agitation en Guinée. Les manifestations qui agitent le pays depuis lundi ont eu des conséquences tragiques et ont fait environ 9 morts et de nombreux blessés. C'est ce qu'ont finalement reconnu les autorités de Conakry. L'opposition et la société civile guinéenne militent depuis des mois contre un projet de nouvelle constitution évoqué par le pouvoir qui permettrait au président Alpha Condé de se présenter fin 2020 pour un troisième mandat. La charte fondamentale actuelle limite le nombre de mandats présidentiels à 2 seulement. En Côte d'Ivoire, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, passé dans l'opposition, a porté plainte mercredi après la tentative d'arrestation à Barcelone en Espagne, dont il dit avoir été l'objet, selon son avocat. Des policiers auraient essayé de l'appréhender en pleine nuit dans son hôtel, mais face à ses protestations, les agents sont finalement repartis bredouille. Ancien allié du président ivoirien Alassane Ouattara, Guillaume Soro est candidat au prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire en 2020. Que pensent les Ivoiriens de cette candidature? Quel est le poids politique de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire et quelles sont ses chances de succès dans cette nouvelle entreprise? Pour répondre à ces questions, Ekiabado a joint Abidjan Félix Kra, membre de la société civile.
C'est une nouvelle importante parce que beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs s'attendaient à cela. Parce que depuis plusieurs mois, ses partisans le disaient à travers des sorties dans la presse et sur les réseaux sociaux. M. Soro Guillaume est une personnalité importante en Côte d'Ivoire par rapport à tout le rôle qu'il a joué depuis les années Fessy jusqu'à la rébellion et même était membre de plusieurs gouvernements et premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est un événement important et c'est un acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Cela donc mérite l'intérêt que tout le monde peut s'accorder par rapport à cela.
Vous avez dit que c'est une personnalité très importante pour les Ivoiriens et pour la politique ivoirienne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ses chances selon vous?
Sa candidature va susciter, c'est vrai, beaucoup de passions. Il y a des gens qui attendent cela, mais il y a des gens aussi, évidemment, à qui ça ne va pas faire plaisir. Dans une démocratie, tous les citoyens ont le droit de se porter candidat, ont le droit de choisir là où ils pensent qu'ils peuvent être présents pour participer à la vie de la nation. Ça, c'est son droit. Maintenant, ce que les citoyens vont décider dans le vote, ça, c'est autre chose.
Il fait donc cavalier seul. Certains imaginaient ou espéraient qu'il allait repartir vers le parti au pouvoir, le RHDP. D'autres ont parlé d'approchement avec le FPI. Est-ce que vous auriez imaginé autre chose?
D'abord, il faut remarquer qu'il bénéficie de beaucoup de soutien. Il dispose de beaucoup d'organisations, au moins 5 organisations de la société civile en sa faveur. Ce sont évidemment des gens de la tranche d'âge de 30 à 45 ans. Mais cela dit, il y a aussi d'autres formations politiques importantes comme le RHDP, comme le PDCI, comme le FPI. Et je parie que si sa candidature venait à être maintenue, confirmée et acceptée, vraiment la bataille sera rude. Pour ma part, je pense que c'est un candidat comme tous les autres. Rien n'est gagné d'avance. Personne n'est optimiste en Côte d'Ivoire. Si on interroge même les gens du pouvoir, peut-être qu'eux ils disent qu'ils sont optimistes, mais je suis convaincu qu'ils ne sont pas tout à fait rassurés. Parce qu'il y a beaucoup de dangers qui planent, notamment concernant la commission électorale indépendante qui n'est pas consensuelle. Cela peut créer des problèmes, il peut avoir des remous. Et ça, c'est aujourd'hui c'est ce que beaucoup de gens craignent. Et qui peut même faire en sorte que l'élection même soit entachée d'irrégularité, n'est pas lieu où ça, c'est une inquiétude gravissime en ce moment dans le pays.
Félix Kra, un membre de la société civile ivoirienne, joint à Abidjan.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, en République centrafricaine, une première unité composée de militaires des FACA, les forces armées centrafricaines, et d'ex-combattants de groupes rebelles va commencer sa formation. Une étape cruciale du processus de paix en RCA, a affirmé mercredi le président Faustin Archange Touadéra. L'intégration des combattants rebelles dans l'armée régulière à travers ces unités spéciales mixtes de sécurité est l'un des piliers de l'accord de paix de Khartoum signé le 6 février entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés opérant dans le pays. En République démocratique du Congo, les enquêtes continuent après le crash jeudi dernier d'un avion cargo Antonov 72 transportant la logistique présidentielle. Les débris de l'appareil ont été retrouvés dans un village de la province du Sankuru dans le centre de la RDC. Selon les premiers éléments mis à la disposition de la presse, les dépouilles de trois des occupants du cargo trouvé sur place ont été placées dans une morgue de la ville de Kananga dans la province du Kasaï central. Le gouvernement congolais invite la population à éviter toute spéculation en attendant les conclusions de l'enquête. Les détails avec Thierry Kambundi, notre correspondant à Kinshasa.
Une première délégation gouvernementale s'est rendue sur le lieu du crash hier mercredi. Cette équipe, composée notamment du ministre de la Défense, du ministre des Transports, d'un représentant du chef de l'État ainsi que des responsables militaires, y était précédée par le gouverneur de province qui, la veille, avec un premier groupe d'experts, a réussi à déterrer les restes des trois corps des victimes du drame. Le gouvernement, qui ne communique que très peu depuis le jour du crash, a simplement, dans un communiqué du ministère de l'Intérieur, appelé la population au calme et à la retenue. Les enquêtes sont présentement menées par des experts congolais avec un appui logistique de la MONUSCO. Ils promettent de tirer au clair et au plus vite cette affaire. Pour rappel, Antonov 72 avait disparu le jeudi 10 octobre dernier alors qu'il avait quitté Goma pour Kinshasa avec à son bord 8 personnes et la logistique présidentielle d'après un communiqué de l'autorité de l'aviation civile. Les habitants de Lokoto dans la province du Sankuru ont découvert les débris de l'appareil le vendredi à 7 km de leur village. Kinshasa, Thierry Kambundi pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, plusieurs centaines de réfugiés ont manifesté mercredi dans la ville du Cap, dans le sud-ouest du pays. Les protestataires demandent à être relocalisés à la suite des violences xénophobes meurtrières qui ont récemment secoué le pays. Irénée Hermanoumbo fait le point.
Sauver les vies des réfugiés avant qu'il ne soit trop tard, scandaient les manifestants devant les bureaux du HCR. L'Afrique du Sud n'est pas mieux que les pays que nous avons fui, lance Jean-Pierre Balus, un réfugié de la RDC qui ne souhaite qu'un abri pour ses enfants en vue d'une meilleure éducation. On est fatigué et on rend la vie plus facile aux Sud-Africains car nous voulons partir le plus vite possible, réclame une Burundaise Sylvia Naïmana. Chaque jour, les femmes se demandent si elles vont revoir leur mari ou leurs enfants. S'inquiète-t-elle, nos papiers sont inutiles, ils ne sont pas reconnus, on ne peut pas trouver du travail, dénonce Sylvia. Depuis une semaine, des centaines de réfugiés campent devant les bureaux du HCR au Cap et à Pretoria, les capitales parlementaires et politiques sud-africaines, pour réclamer de l'aide, notamment de la part de l'agence onusienne, afin de quitter l'Afrique du Sud où ils ne se sentent plus en sécurité.
Actualité hors d'Afrique pour terminer, conflit en Syrie, le vice-président des États-Unis Mike Pence, dépêché par le chef de l'exécutif américain Donald Trump en Turquie, va tenter ce jeudi d'arracher un cessez-le-feu au président turc Recep Tayyip Erdogan, jusqu'à présent inflexible dans sa volonté de mener jusqu'au bout son offensive contre les milices kurdes dans le nord-est de la Syrie. M. Pence, qui est maintenant à Ankara, doit rencontrer le président Erdogan en compagnie du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Et en Syrie même, Mazloum Abdia, le chef des FDS, les forces démocratiques syriennes dominées par les combattants kurdes, a annoncé hier soir le gel des opérations contre le groupe État islamique, passé dans la clandestinité depuis la chute de son califat en mars. Les précisions de John Lyndon.
Nous avons gelé toutes nos activités contre Daesh, déclare Mazloum Abdi dans un entretien télévisé sur la chaîne kurde Ronahi. Les FDS se contenteront d'opérations défensives face à Daesh, ajoute-t-il. Cette déclaration intervient alors que la Turquie mène depuis le 9 octobre une offensive contre les zones kurdes dans le nord de la Syrie, d'où se sont retirées les forces américaines. Après la chute de son califat à l'issue d'une longue bataille menée par les forces kurdes soutenues par Washington, le groupe État islamique a muté en organisation clandestine, œuvrant à travers le vaste désert syrien. Au cours des derniers mois, l'organisation djihadiste a revendiqué plusieurs attaques meurtrières dans des zones prises par les FDS, mais aussi contre les forces du régime. La dernière attaque en date a fait 6 morts le 11 octobre dans la ville de Gamishli. Depuis mars, les FDS sont lancés dans une traque des djihadistes encore en liberté en Syrie, notamment dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Les forces kurdes détiennent 12 000 djihadistes, dont 2 500 à 3 000 étrangers, ainsi que des dizaines de milliers de civils liés au groupe État islamique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.